Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Eh bien voilà, c'est une nouvelle saison qui commence.
On la 16e.
Je veux pas savoir. C'est trop long. Bon, mais on est très très content de retrouver tous les auditeurs. On est très content de retrouver Agora FM. Et pour cette première émission, eh bien la première partie sera consacrée à une interview, à un entretien avec Cyril Herry. Cyril Herry, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Donc vous êtes à la tête, est-ce qu'on dit comme ça, vous êtes le directeur de collection des éditions Écorce, avec quatre collections. Il y a la collection Territorie, la collection Noire, oui. Mais aussi des collections que nous on connaît moins parce que c'est moins ancré dans le roman noir, Arrobase, et puis
Arrobase,
nos collections. C'est joli c'est ça, nos collections.
Alors nos collections, c'est un petit peu la collection, elle est consacrée à des coups de cœur en fait qui n'entrent pas dans des collections noires et territories.
On s'arrange.
C'est-à-dire que je me permets avec cette collection-là d'éditer des choses qui ne sont pas de l'ordre du roman noir en fait.
Ah, et d'éditer un peu des coups de cœur, d'autres coups de cœur dans les autres collections. Alors on va procéder par ordre. Ces éditions, si joli nom d'Écorce, sont nées comment?
Elles sont nées de coups de cœur pour des textes que j'avais découverts sur la toile, sur Internet, sur un forum précisément. Coup de cœur pour 2, 3, puis 4 auteurs. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Il fallait absolument que ces romans soient révélés, enfin en tout cas existent et soient diffusés. Et donc c'est grâce à 3 auteurs en particulier que j'ai décidé de créer les éditions Écorce. C'était en 2009.
Donc c'est en fait des rencontres avec des textes, même pas avec des gens, des rencontres avec des textes finalement.
Tout à fait. Même si effectivement j'étais en contact avec les auteurs, mais à distance, via Internet, je les ai rencontrés uniquement lorsque les romans ont été publiés ou étaient sur le point de l'être. Donc on a vraiment travaillé à distance et tout s'est passé par Internet.
Alors quand on monte une édition, quand on devient éditeur, évidemment, on fait très très attention au choix du nom des éditions. Écorce, ça signifie beaucoup de choses, le côté terroir, le côté terre, le côté peut-être aussi un peu écologue. Il y a l'idée...
Écologue, pas au sens écologique, écologiste, je dirais.
C'est bien pour ça que j'ai dit écologue et pas écologiste.
D'accord. Voilà, donc j'ai toujours été très proche de la nature de toute façon depuis très longtemps. Et à l'époque où j'ai créé Écorce, je vivais en Creuse, en lisière d'une forêt, dans un petit hameau de 17 ou 18 habitants. Et Écorce rimait avec l'environnement dans lequel je vivais, tout simplement. Et j'ai appris plus tard que les tout premiers écrits ont été gravés dans l'histoire de l'humanité au revers de l'écorce des arbres. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard et que ça tombait plutôt bien. Donc je suis resté accroché à ce nom pour la maison d'édition.
Quelques centaines de milliers d'années plus tard. Et donc quand voilà. On a découvert vos livres, vos collections, nous on a été vraiment, je pèse mes mots, mais on a été éblouis par les couvertures, par le travail de fabrication du livre. Qui vous a fait ces magnifiques couvertures?
À la base, moi je suis photographe et j'avais quelques petites notions en graphisme. Donc la ligne graphique, c'est moi qui l'ai créée au tout début. Elle est restée d'ailleurs identique depuis le tout premier roman « Retour à la nuit » d'Éric Manval jusqu'au tout dernier qui est sorti dans la collection Territorie. Ensuite, les photos, j'en ai réalisé certaines. Ma compagne en a fait d'autres puisqu'elle est également photographe. Et il m'est aussi arrivé de faire appel à d'autres photographes qui avaient réalisé des clichés qui collaient parfaitement à des illustrations pour des romans. Et je crois que quand on sort un roman, quand on édite un roman, il est important que l'objet soit soigné.
Tout à fait, l'objet livre.
Qu'il reflète le contenu, bien sûr, sans trop en dire, sans essayer de vendre le contenu pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que je tiens à ce qu'un bon texte soit illustré par une belle photo de couverture.
C'est joliment dit, ça fait plaisir de voir qu'on ne va pas forcément chercher à happer un lecteur potentiel par des couvertures, soyons polis, on va dire un peu accrocheuses.
Oui.
On souhaitait beaucoup vous entendre à propos de cette collection, donc Territorie, on a assisté un petit peu à une renaissance, on va dire, au mois de juin, puisque vous êtes associé avec un autre éditeur, la Manufacture de Livres et Pierre Fourniaud.
Tout à fait. Ça a été une très belle rencontre qui a eu lieu au mois de juin 2014, après la sortie de ce que j'appelle aujourd'hui les prototypes territories, puisque les deux premiers sont sortis aux éditions Écorce en juin 2014. C'était Séverine Chevalier, son roman Clou et l'Ouest, et Pur Sang de Franck Bouys. Franck Bouys était sur le point de sortir Grossir le ciel à la Manufacture. Et il avait tenu absolument à ce que je réalise la couverture de son roman. Et du coup, j'ai rencontré Pierre Fourniaud, avec qui j'ai longuement discuté à plusieurs reprises. On s'est vus, on s'est revus. Et il se trouve que Pierre, Franck et moi, on est natifs tous les trois du Limousin. Donc ce fut une rencontre assez cohérente. On parlait des mêmes choses, on en parlait de la même façon. Et il se trouve que Pierre envisageait plus ou moins de créer une collection, en tout cas de se diriger vers ce registre littéraire qui touche aux grands espaces, à la nature. Et du coup, plutôt que de faire un petit peu la même chose chacun de son côté, sachant que lui était bien implanté dans l'édition et moi pas vraiment, j'étais plutôt en sous-marin, je n'avais pas de diffuseur, il a fini par me proposer de diriger Territory à la Manufacture. Donc il y a eu une passerelle qui s'est établie à un moment donné, puisque Territory est resté propre à Écorce et a gagné à la Manufacture.
À gagner en particulier pour la distribution, ce qui fait que on peut trouver
la diffusion et la visibilité des romans, la reconnaissance pour les auteurs.
Et donc sur votre site, il y a une très très belle déclaration d'intention, une ligne éditoriale à propos de cette collection Territory. Alors je pourrais la lire parce que c'est des très belles phrases et qui touchent beaucoup parce qu'on touche au niveau donc de la nature, des grands espaces, vous l'avez dit, mais aussi il y a une dimension sociale très très importante et actée de la société actuelle très individualiste. Alors est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette ligne éditoriale?
Vous voulez pas lire la phrase plutôt?
Allez, moi je vais lire la phrase. Elle est longue, j'espère ne pas la lire bien. Territory s'inscrit dans une époque, à l'heure de la surexploitation des ressources naturelles, des inégalités croissantes dans la répartition des richesses, d'initiatives alternatives qui visent à s'éloigner des métropoles aseptisées pour se rapprocher de la nature et renouer avec elle, renouer avec soi-même à l'heure où l'individualisme prôné à outrance mène à une perte de repères et d'identité. On est complètement dans le roman noir tel que nous, on le défend. Pas forcément roman policier, roman noir.
Oui, tout à fait.
Et donc
je n'envisage pas d'éditer des romans policiers, en fait. La confusion est faite, enfin, pas vraiment ça une confusion, c'est une assimilation, puisque le roman noir et le roman policier sont frères de sang, quand même.
Bien sûr.
Dans les mêmes rayons de librairie. Mais ce que je tenais à dire, c'est qu'on ne peut pas écrire des romans qui concernent la nature sans parler de l'époque à laquelle on écrit ce roman. Et on ne peut pas parler de la nature d'une façon exotique, contemplative, sans tenir compte du contexte social, politique et écologique dans lequel on se trouve. Donc la collection Territory, elle est vraiment... elle reflète son époque, elle en témoigne, et elle ne nie absolument pas la réalité.
Oui, il n'y a pas que des villes dans le monde, justement, puisqu'on parle souvent du roman noir urbain, mais il y a aussi beaucoup de choses, et on va le prouver en parlant de au moins deux des livres qui sont sortis en juin. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des régions un peu obscures, peut-être.
Obscures, je ne sais pas. C'est peut-être les auteurs qui les rendent obscures, je ne sais pas.
Mais disons que, voilà, c'est des petits coins, allez, j'allais dire un peu reculés, mais c'est bête de dire ça, parce que c'est certainement parce que je suis citadine, mais disons que quand on entame, par exemple, le roman d'Antonin Varenne, qui s'appelle « Battue », alors « Battue », c'est en référence, c'est pas à des femmes battues, quoique, mais c'est aussi surtout en référence à une battue au sanglier qui a lieu à peu près au milieu de ce livre, eh bien, on est dans un coin... un peu mystérieux quand même, parce que c'est la petite ville de R. Alors, Antonin Varenne, il est aussi de la Creuse.
Il n'est pas né en Creuse, mais il y vit depuis pas mal d'années.
Voilà, il vit. J'ai l'impression qu'il connaît bien la Creuse, en tout cas. Et donc, ce roman qui se situe dans le Limousin, enfin, dans la Creuse, dans le Limousin, Antonin Varenne dit « Le mieux ici, c'est à peine différent du pire ». Et juste pas beaucoup plus loin, il dit « Ici, on ne connaît pas la justice, seulement la vengeance. » Et là, le décor, je dirais, est planté.
Il est planté. Mais je pense que pour percevoir ce genre de choses, ce genre de rapport, qui souvent est conflictuel, effectivement, entre les hommes, il faut vivre dans la campagne, il faut vivre en milieu rural. On ne va pas se rendre compte si on ne fait que passer. Si on est de simples touristes qui louent un gîte pour 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, on ne va pas forcément se rendre compte de tout ça, de toutes les tensions qui peuvent exister, perdurer entre des gens du coin, des autochtones ou pas, mais depuis des générations la plupart du temps. Et Antonin, il expose très très bien ce tableau-là avec ce roman, c'est clair.
Ah, c'est un roman absolument magnifique, enfin moi c'est un des coups de cœur de la rentrée. Et dans ce roman, on va pas du tout raconter l'intrigue, surtout que ce serait très difficile parce que Antonin Varenne joue excellemment bien une topographie du temps. C'est-à-dire qu'il se joue des lieux et de l'espace et le temps en chapitre après chapitre. C'est toujours avant, après, grâce à des interrogatoires effectués par les gendarmes. Donc il va y avoir quand même des délits et des crimes. Mais ça, on va pas trop en parler. Ce qui est intéressant, c'est le fond avec deux familles qui tiennent tout, qui se disputent la terre, l'argent. Et puis donc, ils possèdent aussi les gens puisqu'ils ont la terre et l'argent.
Ils ont le pouvoir, tout simplement.
Ils ont le pouvoir. Et au milieu, on a un personnage principal, et je le dis rarement ça, mais ici, je trouve que c'est un beau héros, même s'il est complètement fracassé, ce héros, c'est Rémi, le garde forestier. Vous nous en dites 2 mots ?
Rémi, enfin moi, je ne suis pas contre le mot héros, en fait. On a tendance à vouloir les faire disparaître, ou à ne plus les appeler comme ça, mais... Si, c'est une forme de héros, parce que finalement, c'est lui qui crée l'équilibre ou qui le compromet aussi au fil du roman. Et Rémi, il vient... Rémi, il est amoureux, d'abord. Il est amoureux depuis le départ.
Oui, d'abord, c'est Rémi, un très beau roman d'amour.
Par rapport à la Terre. Mais il ne faut jamais oublier qu'il est amoureux depuis le début. Mm. Et Antonin m'a dit un jour... En fait, on est en train de travailler sur la fin du manuscrit ensemble, et je lui ai proposé de supprimer une phrase qu'il avait écrite dans une réplique. Et on a discuté un bon petit moment de cette réplique qu'il a finalement supprimée, qui parlait d'amour en fait. Ça finissait très bien. Le roman finit très bien au fond sur une note sentimentale. Mais Rémi, il est abîmé, il est fracassé. C'est clair.
Fracassé.
Et la femme dont il est amoureux l'est tout autant en fait, d'une autre façon, mais elle l'est tout autant et elle est prise en étau complètement puisqu'elle vient d'une des familles.
On est dans Roméo et Juliette. C'est un peu shakespearien d'ailleurs ce drame.
Oui, mais complètement. De toute façon, on peut difficilement éviter de se référer, même sans le vouloir, à notre insu, à des grands classiques, shakespeariens entre autres. Mm. Donc je crois qu'Antonin, il joue avec ça.
Oui, tout à fait. Et puis, il joue avec cette histoire d'amour, cette histoire de terre aussi. Parce que ce qui est assez... moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le parallèle entre les hommes, hommes ou femmes, bien évidemment, blessés dans leur chair, blessés dans leur tête et dans leur âme, et la terre aussi. La terre qu'on blesse beaucoup, mais qui sait se venger.
Ils vivent avec la terre, ils vivent dans la terre, ces gens-là. C'est elle qui les nourrit, c'est elle qui les ont fait vivre depuis des générations. Ils savent comment elle fonctionne. Ils savent aussi qu'elle peut être terrible. Enfin, Jean Giono l'a très très bien écrit dans son œuvre pendant toute sa vie. La terre, elle nous dépasse en fait. Elle nous dépasse et quand elle se met en colère, on est absolument ridicule. Nous sommes dérisoires, nous sommes des insectes prétentieux sous les astres. C'est tout ce qu'on est. Et les hommes font avec la terre, font avec la nature. Et au milieu de tout ça, au milieu de ces conflits qui ont lieu via la terre, via l'exploitation de la terre, et je crois qu'on est vraiment dans une des meilleures périodes pour parler de l'exploitation de la terre, il y a encore des êtres qui s'aiment. Et je crois que c'est ça un petit peu que Antonin a voulu exprimer à travers ce roman.
Alors, autre roman, où là les gens s'aiment mais se le disent peut-être très très mal, ou s'aiment un peu moins, c'est Cloué l'Ouest. De Séverine Chevalier. Donc là, on a une réédition, mais bienvenue, puisqu'il n'y avait pas eu beaucoup, beaucoup de diffusion. Donc c'est très bien qu'il puisse avoir une meilleure lisibilité, peut-être maintenant. Donc là, on a un fils qui revient. Et là, on n'est pas très loin, on est dans une région proche d'ailleurs, hein, de
Bethune. On est dans la même région, en fait.
Voilà. Et puis, Et donc là, là encore, un lourd héritage familial avec des personnages de la famille, la mère, le père, qui sont, comment dire, l'héritage est difficile.
Bon, l'héritage, il est très difficile. Le retour du fils est très difficile. Là encore, il y a une histoire d'argent, puisque le fils, il revient pas voir ses parents par nostalgie, par amour.
Non.
Il revient pour demander de l'argent, en fait. Alors, bon, je voulais juste reprendre un petit peu l'histoire de Chloé l'Ouest. Donc, c'est un roman qui est sorti aux éditions Écorce en petit format à très très peu d'exemplaires un an avant sa réédition.
Mm-hmm.
Et ça a été ce que j'appelle un coup de cœur véritable pour un manuscrit. Alors, c'était une commande. J'avais demandé à Séverine, tout comme j'avais demandé à Franck Bouys, d'écrire tous les deux pour la collection Territory, pour la lancer.
Mm-hmm.
Et le roman Chloé l'Ouest m'a littéralement sidéré. Je suis tombé. Et ça a été vraiment ce que j'appelle un coup de cœur quand je lis un manuscrit. Pour l'écriture, pour l'univers que Séverine pose, le décor qu'elle pose à travers une région qu'elle connaît très peu, en fait, puisqu'elle vivait à l'époque à Marseille. Elle a déménagé, maintenant elle habite en Auvergne. Mais le décor qu'elle plante est absolument fidèle à ce qu'on peut vivre quand on va se promener dans les bois à la saison qu'elle décrit. Mais ça, c'est une forme de décor de théâtre pour Séverine. Ce qui importe pour elle, ce sont les relations humaines, les tensions familiales, puisque tout comme dans son premier roman, Recluse, elle aborde les tensions familiales, les secrets, les choses inavouées, inavouables, les poches d'air qui résident dans les esprits et qui vont de toute façon éclater à un moment ou à un autre. Et elle écrit ça d'une façon, enfin je trouve, avec le peu d'objectivité dont je dispose, elle écrit ça d'une façon limpide, très simple, très accessible, qui nous touche directement en fait, qui nous prend directement au ventre. C'est la force de cet auteur.
Ce qui est assez fort, c'est que en fait, le simple fait que le personnage revienne dans sa famille, dans son village, ça suffit à briser l'équilibre de tout ce village qui était effectivement très instable, puisque sa simple venue fait un peu basculer pas mal de monde, en tous les cas, dans... Pas tout à fait un chaos, il ne faut pas exagérer, mais...
L'équilibre des relations dans le village et dans la famille ne tenait qu'à un fil, en fait. Ça tenait à rien. Et effectivement, le retour de Karl, famille, compromet absolument tout, en fait exploser les choses et révèle des choses assez profondes, en fait. Hein. Ça va de la petite fille muette jusqu'à des relations entre des personnages que je ne vais pas décrire, sinon je vais dévoiler des choses. Et c'est une forme d'explosion très lente et, je dirais, silencieuse, en fait. Enfin, le roman, je dirais qu'il met en scène des déflagrations humaines.
Ah, c'est très joliment dit, effectivement.
Et mais effectivement, en silence.
Oui,
il n'y a pas beaucoup de cris ni de grands bruits. C'est, tout se passe en dessous un petit peu.
Oui, tout le temps. En dessous et à l'intérieur.
Exactement.
Cyril Héry, je suis désolée, mais on arrive au bout de l'émission, donc on n'a pas trop eu le temps de présenter le troisième roman, Crow, mais peut-être qu'on va en reparler dans une autre émission. Donc je voudrais donc les éditions Écorce, avec les romans de la collection Territory, la collection Noire, mais aussi Arrobas et No Collection, et puis ces deux romans, trois romans qui viennent de sortir au mois de juin. Il faut les découvrir maintenant, à l'automne, maintenant qu'on est un peu rentré. Donc, Battu, Antonin Varenne, Cloué l'Ouest de Séverine Chevalier, et puis Crow, mais je vais vous laisser dire le nom de l'auteur parce que j'arrive pas à le dire. Dioudné.
Beaucoup de gens l'écorchent et beaucoup de gens redoutent de l'écorcher. Donc, c'est Patrick K. Dioudné. Il est anglais, il maîtrise parfaitement la langue française et son roman Crow en est la preuve. C'est également un coup de cœur dont j'espère qu'on puisse parler dans le futur ensemble.
J'espère bien. Merci beaucoup Cyril Héry, au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.